Histoire des îles Marquises, de Akaka yo te henua enana, te fenua enata. Une série de 60 émissions conçues, réalisées et racontées par Jacques Jacopo Pello.
Chers amis des îles Marquises et du reste du monde, ka oha nui.
Et bienvenue dans cette 40e émission,
édition 2023.
Ce que j'aime dans l'étude de l'histoire en général, c'est la confrontation avec la réalité passée. On peut faire tous les commentaires que l'on veut, ce qui est fait, en bien ou en mal. La dernière fois, nous avions évoqué brièvement la bataille de Waitahu de septembre 1842, qui avait vu des morts aussi bien du côté Enata que du côté français. Cette réalité objective, Max Radiguet en a été le témoin journaliste et nous a laissé un récit très prenant de cet épisode sanglant. Avec du recul, j'ai pensé que les gens de Tahuata en particulier, et vous tous en général, vous aimeriez entendre ce récit. En effet, faute de pouvoir lire les ouvrages les retraçant, l'un des buts de ces émissions est de donner à chacun d'entre vous l'occasion d'en connaître un peu le contenu. J'entends déjà les critiques. Max Radiguet était officier français, il était secrétaire de l'amiral du Petit Thouars. Comment pourrait-il être objectif dans ses récits? Ma réponse sera simple et claire. Avez-vous déjà vu les peintures aquarelles qu'il a réalisées à Tahuata et à Nukuhiva en 1842? Avez-vous remarqué la qualité du détail des tenues des chefs et de leurs épouses? N'avez-vous pas été ému de voir ces tatouages paheke sur le visage des petits garçons? N'avez-vous pas été touché par la description au crayon de la scène où l'on voit Yotete déguster le kava en compagnie d'autres hommes? Avec un ordinateur, avez-vous jamais essayé d'agrandir l'image de la scène de la prise de possession de Tahuata? Avez-vous vu ces détails de tatouage? Avez-vous vu les visages des spectateurs? Avez-vous reconnu
Yotete et Maheono?
Si vous ne l'avez pas encore fait, empressez-vous de le faire. Et si vous l'avez déjà fait, vous serez alors d'accord avec moi pour dire qu'un homme qui dépeint la réalité avec autant d'efforts de justesse, cet homme ne peut être différent quand il écrit son journal et qu'on peut lui faire confiance quant à la véracité de ses dires. En 2004, au musée de la Marine, au fort de Vincennes, près de Paris, où il est conservé, après un an d'attente, j'ai eu l'immense chance de pouvoir tenir entre mes mains l'original du manuscrit de Max Radiguet, qui, en raison des dessins qu'il contient, est d'un très grand format, genre portefeuille, comme on dit, portofolio, auquel on ne peut toucher qu'après avoir enfilé des gants. Mon émotion était forte à tenir entre les mains ainsi le témoin des histoires passées des Marquises. Et croyez-moi, l'authenticité des peintures démontre la bonne foi de cet homme, même si, évidemment, ses pensées sont aussi parfois celles d'un autre siècle.
Aujourd'hui donc,
je vais commencer à vous faire la lecture même du livre de Max Radiguet intitulé « Les derniers sauvages ». Comme je le disais plus haut, Radiguet est un homme du XIXe siècle, avec un vocabulaire du XIXe siècle. Ne soyons donc pas choqués quand il nomme les Enata Enana des sauvages ou même des Kanaks. C'est ce qu'on disait à l'époque. Et puis, si le mot Kanak a pris une signification particulière avec les événements de Nouvelle-Calédonie, il ne faut pas oublier que ce mot est d'origine polynésienne, en langue hawaïenne qui se nomme Olelo Hawaii. Le mot Kanaka signifie un être humain, une personne.
Il n'est qu'une variante polynésienne du mot Ta'ata en tahitien, Enana Enata en marquisien, et du mot Tangata, commun aux langues Rapa Nui de l'île de Pâques et Maori de Nouvelle-Zélande, toujours avec la signification d'homme, être humain.
Il ne faut donc pas y voir une insulte, mais un mot particulièrement bien choisi et honorable.
Prenons donc
le 6e chapitre du livre de Max Radiguet à la page 101, où nous apprenons que,
accablé de voir en 2 mois seulement son autorité anéantie par la présence de la marine française à Waitahu,
Yotete part se cacher dans la montagne avec toute sa famille le 1er août 1842. Le départ de Yotété fut le signal d'une émigration des habitants de la baie. Dans chaque entrevue postérieure, le mauvais vouloir du roi et sa mauvaise humeur se prononcèrent plus vivement. Bien qu'on lui payât scrupuleusement, au prix qu'il fixait lui-même, les bois de construction, les rameaux de toiture et les vivres dont le camp avait besoin, au lieu de se montrer, comme par le passé, enchanté d'une bonne affaire, il se contentait de répondre à toute nouvelle demande que son consentement était inutile, que les Français étaient les maîtres et que le véritable roi se nommait Hale et non plus Yotete. « Ehia haka ikito oe. Combien veux-tu de chefs ? » demanda-t-il un jour à un kanak de
Hanami-ai
qui lui exprimait le désir d'habiter sa vallée. Cette phrase résumait le sentiment du roi. Le commandant français mettait tous ses soins à éviter une rupture et combattait avec dignité les prétentions de l'ombrageux vieillard, mais le respect que les indigènes semblaient avoir voué à cet officier, au commandant donc, en dépit de l'attachement qu'il portait à leur roi, avivait encore l'aigreur jalouse de Yotété contre les Français. C'est moi qui le dis, Yotété était aussi jaloux de l'amitié que son peuple portait aux Français. Telle était la situation au 20 août, le 20 août 1842, quand la frégate Reine Blanche reparut devant Tahuata. Après avoir pris connaissance de tout ce qui s'était passé, l'amiral du Petit Houa reprocha à Yotété de ne pas se conduire en ami, comme il avait promis de le faire, et le pressa vivement de redescendre dans la baie et d'y ramener son peuple. Le roi répondit qu'il ne cessait en rien d'être notre ami, qu'il engageait chaque jour ses sujets à retourner au rivage, mais que, pour lui-même, son état de santé lui défendait de quitter la montagne. L'amiral répliqua que l'autorité du roi était trop bien établie pour que les Kanaks refusassent de se soumettre à une injonction formelle, qu'en conséquence, il lui donnait 8 jours pour faire entrer les choses dans l'ordre primitif, lui déclarant que, passé ce délai, on considérerait sa persistance dans une rupture complète du pacte d'amitié qui nous avait unis. Car la présence du peuple au rivage de Waitahu était une garantie de sécurité pour les Français qui avaient ainsi des otages sous la main. C'est ce que rajoute Max Radiguet en bas de la page. Au bout d'une semaine et plus, aucun Kanak n'avait encore reparu dans la vallée. On convoqua alors en assemblée générale les chefs de Tahuata excepté Yotete. Tous s'y rendirent et avec une impassibilité apparente, écoutèrent l'arrêt de déchéance du roi sur l'île et sur sa propre vallée. Injonction leur ayant été faite alors, séance tenante, d'avoir à élire un nouveau chef suprême qui les représenta vis-à-vis des Français, ils désignèrent d'un commun accord
Mahéono
et allèrent porter à Yotété la décision qui le dépossédait. Celui-ci reçut la nouvelle sans émotion. Il se borna à répondre que depuis longtemps déjà, il avait cessé d'être roi et ne parut pas s'en préoccuper davantage. Bientôt voir que malgré l'apparente soumission des chefs aux volontés du gouverneur, le prestige du vieux monarque était resté pour eux aussi vivace. En effet, nos relations avec les naturels ne furent en rien modifiées. Ils opposèrent la force d'inertie aux tentatives destinées à les ramener à nous. Pour se créer un allié qui servit de trait d'union entre le camp français et les diverses tribus de Kanak, M. Halley fit négocier le rappel d'un chef, frère de Yotete, chassé de Vaitahu à la suite d'une guerre sanglante. Ce chef, dont certains livres disent qu'il se nommait Tiha, ce chef vivait à Hivaoa avec les débris de sa tribu et pouvait mettre sous les armes 40 guerriers. Il n'était donc pas douteux qu'installé sous notre protection dans une des meilleures vallées de l'île, son influence ne prit un rapide accroissement. La chaloupe du Bucéphale, expédiée à la baie de Ta'aoa à Hivaoa, en revint avec le proscrit, et il fut convenu que le navire lui-même se rendrait ultérieurement à la même baie pour y prendre, d'un seul voyage, tous les émigrants de bonne volonté afin de repeupler Vaitahu. Cependant, des bruits vagues commençaient à se répandre. Des préparatifs de guerre se poursuivaient clandestinement, assurait-on. Le nombre des hommes en état de porter les armes, qui chaque jour diminuait dans les différentes vallées, justifiait ces bruits, et rendait probable la formation de rassemblements vers les parties hautes de l'île. Décidé à sortir d'une fausse situation, le gouverneur Halley résolut d'exiler Yotete de Vaitahu en même temps qu'il ferait venir l'émigration de Ta'aoa dont nous avons parlé. Ayant donc mandé au camp Iha, le chef de Hanami'ai, qui plus particulièrement semblait disposé à vivre en bonne intelligence avec nous, il lui donna la mission de signifier au peuple que si rebelles aux ordres donnés, ils ne revenaient pas aussitôt habiter la baie, Yotete allait être chassé de sa vallée. Le lendemain, 16 septembre, à peine le chef Iha se fut-il acquitté de cette mission que la fille de Yotete, Tahia, vint avec un cortège de femmes se présenter en suppliant à M. Halley. Elle parla d'abord au nom de son père, qui se reconnaissant déchu de sa souveraineté, consentait à n'être plus désormais qu'un kikino, un homme de rien, et promettait de vivre comme tel, demandant pour unique faveur qu'on le laissât occuper la résidence choisie. M. Halley répondit que déjà depuis longtemps Yotete était un kikino pour les Français, mais que la tribu, ayant persisté sous son influence à s'isoler de nous, manifestant ainsi une aversion qui avait à notre égard pris la place de l'amitié jurée, il devenait nécessaire de séparer d'elle celui qui l'avait égaré par ses mauvais conseils. Parlant alors au nom du peuple entier, Tahia répéta que Yotete n'était et ne serait désormais qu'un kikino pour tout le monde, mais que la tribu suppliait le gouverneur de le laisser vivre et mourir à son domicile de la montagne. Ayant dit, la jeune fille se retourna vers ses compagnes, en reçut un magnifique ta'avaha, une coiffure de plumes des jours de fête, puis, avec cette démarche languissante, cette grâce molle, exténuée, à laquelle sa douleur et son état maladif prêtaient une attendrissante séduction, elle s'avança jusqu'au pied du gouverneur et y déposa le Tavaha en se prosternant. M. Halley considéra ce présent comme destiné à intéresser sa Clémence. Aussi fit-il comprendre à la fille de Yotété qu'il ne pouvait rien n'accepter d'elle avant l'heure où la soumission des habitants de la vallée ferait renaître les rapports d'amitié interrompus. Il ajouta que sa décision restait la même et qu'il donnait au peuple de Vaitahu 24 heures pour s'y soumettre. Alors, Tahiya se retira lentement, suivi des femmes dont la douloureuse expression se réglait sur la sienne. On crut voir briller des larmes sous plus d'une paupière. Ce triste et gracieux épisode se passait le 16 septembre. Il était midi environ quand Tahiya retourna porter au peuple l'ultimatum du gouverneur. La nuit venue, les bruits du camp s'éteignirent. Des voix lointaines, indistinctes d'abord, se rapprochèrent et l'on entendit tomber des crêtes les plus voisines, cette phrase répétée à plusieurs reprises et confiée au vent du soir.
« Etahi matena tutato, etahi matena tutato, etahi matena tutato. »
Une seule mort pour nous tous. Chers amis, c'est avec ces paroles prémonitoires que s'achève la première partie du récit de la bataille de Vaitahu, qui ne commencera vraiment que le lendemain de la scène dont nous venons d'être les témoins auditifs et qui sera le sujet de l'émission suivante.
Avant de mettre un terme à cette émission, je voulais corriger la prononciation du nom du chef de Tahuata, Iotete, et non pas Iotete comme je le dis souvent, parce que la première version de cette émission a été enregistrée en 2016 et que, à l'époque, je maîtrisais moins bien que maintenant la prononciation des noms propres marquisiens. Je demande à mes amis marquisiens de m'excuser.
À bientôt pour la suite de cette histoire touchante et passionnante des îles Marquises. Rejoignez-moi sur ma page Facebook Te'eo et sur mon site internet te'eo.com. Et merci au groupe Kanahau Trio pour sa chanson de circonstance « Anoho Akaituto ». Asseyons-nous et réfléchissons. Si une question vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail kopo@mail.pf ou sur mon Vini 87 756 719. A bientôt, apai, o oaiho.
No te ati e nata.